Bonjour, encore. Je suis bien, vraiment content d'être là avec vous ce matin. Ça me fait plaisir, c'est bien. Je sais que c'est normalement, ça ne va pas être la seule raison, mais ça me fait plaisir aussi. Ce matin, quelqu'un m'a facilité le travail. Vous savez que je vous dis souvent que vous pouvez passer des commandes pour les messages. Alors, ce n'était pas une commande, mais c'était une question. Quelqu'un qui m'a téléphoné dans la semaine pour me poser des questions sur le brisement ou le fait d'être brisé dans les Écritures. Et puis j'ai dit, oh, ça c'est un sujet qui mérite qu'on creuse un petit peu. Je ne vais pas briser la question comme ça. Surtout, ça m'a ramené des années en arrière. Mais quand je dis des années, c'est, hein, je vous parle d'un temps où les moins de 20 ans, etc. Il y a très 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 longtemps. Parce qu'en fait, je me suis rappelé que c'était un sujet, j'avais entendu beaucoup de messages là-dessus quand j'avais 12, 13, 14 ans. Hein. Si je me souviens bien, M. Washmani avait des livres là-dessus, le brisement dans la vie du chrétien, et puis etc., etc. Et comme souvent les choses qui nous traumatisent un peu, j'avais enfoui ce sujet loin, loin, loin de moi. Voilà. Alors c'est une bonne question à se poser parce que je pense que je ne suis pas le seul ici. Il n'y a pas que des moins de 20 ans qui sont ici ce matin. Je pense que vous avez aussi entendu des messages là-dessus. Et puis j'ai fait un petit survol des textes dans les Écritures sur ce sujet, puis regardez un peu. Et tout d'abord, je pourrais dire que dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun texte qui nous encourage, qui nous pousse, qui veulent à ce qu'on demande à Dieu qui nous brise. Il n'y en a pas. Donc le brisement n'est pas quelque chose qu'on demande à Dieu. Je ne dis pas qu'il ne vient pas des fois. Hein. Mais l'écrasante majorité des textes dans l'Ancien Testament qui parlent du brisement, c'est la manifestation de la colère de Dieu contre l'orgueil des hommes, hein, pas de ses enfants. Et d'ailleurs, dans le mot briser, hein, on ne peut pas briser un spaghetti bien cuit, par exemple. On le brise quand il est cru. Hein. Vous voyez, on peut briser, je peux briser la vitre derrière, mais je ne peux pas briser mon écharpe. Donc, pour que quelque chose soit brisé, il faut qu'il soit dur, il faut qu'il soit rigide et il faut qu'il puisse se casser, parce que sinon, il ne se brise pas à la rigueur, il se tord dans le pire des cas. Et donc, je ne vous ferai pas la liste, mais si vous prenez une concordance, que ce soit informatique ou sur papier, puis que vous cherchez briser, brisement ou tout ce qui ressemble à ça, alors vous allez voir, il y en a une quantité industrielle. Hein. Dieu parle au roi d'Égypte et je te briserai dans ton orgueil, et puis etc. Alors, dès comme ça, il y en a. Et je briserai tes chars de fer, je briserai les reins, les dents, tout ce que vous voulez. Hein, il brise tout. Hein. Mais c'est toujours dans l'expression de la colère de Dieu contre l'orgueil de l'homme. Et quand je dis l'orgueil, on est tous orgueilleux. Hein. Mais là, je parle de l'orgueil. Et je ne fais aucune référence à la politique actuelle, hein, mais l'orgueil de l'homme qui vraiment dit « moi, 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 je peux, et moi contre Dieu, et moi, Dieu a voulu que moi, je sois. Hein. » Et Dieu dit « ok, tu te crois bien dur, on va voir. Hein. » Mais ce n'est pas le rôle de l'homme non plus de demander qu'il brise les autres, hein, pas plus que pour nous. Quoi. Donc le brisement n'est pas quelque chose qui doit faire partie de nos vies dans le sens où on le demande à Dieu. Ok. Maintenant, on voit que des croyants ou des prophètes dans l'Ancien Testament, eux, se sentaient brisés par l'action de Dieu. Hein. Alors, on en a deux, notamment, on les connaît, Job. Hein. Je vous lis ce premier verset. Job 16, 12. « J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme un but, comme une cible. » Alors, effectivement, Job a été brisé par les conséquences du conflit qu'il y avait entre Dieu et Satan. Mais le but de Dieu, ce n'était pas de briser Job pour le briser ou pour, tiens, on va voir, ça va lui faire du bien, je vais le briser. Il y avait un enjeu spirituel qui était là et il s'est retrouvé pris dans cette tourmente et il a été brisé. Et on va voir que Dieu l'a utilisé, bien sûr. Mais voilà. Et puis, il y a d'autres versets avec Job. Et puis, il y en a un deuxième, vous imaginez qui, hein, celui à qui dit « Dieu m'a cassé les dents dans le gravier ». Hein, Lamentation, c'est notre cher ami Jérémie. Hein, « Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os » dans Lamentation 3.4. Et 3.16, « Il a brisé mes dents avec des cailloux ». Ma fille est tombée en trottinette il y a quelque temps, hein, tu le sais, hein, on est venu te voir, et elle s'est cassée une dent sur le gravier, c'est-à-dire qu'il y avait des, vraiment des petits bouts de dents comme ça, sur 5 cm, sur le goudron, quoi, les graviers. Il y avait la trace de sa dent, et puis bien sûr, il manquait la dent. Ah, j'ai pensé à ce verset, c'est horrible. Et puis, voilà, donc effectivement, ça s'est passé dans ces cas-là, mais on va dire que c'était vraiment lié d'abord à leur ministère, c'était dans l'Ancien Testament. Et puis, ben, là encore, ils ont été pris dans la tourmente de l'action pour Dieu, quoi. Mais ce qu'on voit déjà dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu se tient près de ceux qui ont le cœur brisé pour les réconforter, en tout cas s'ils veulent bien l'accueillir. Hein. Je lis un texte, par exemple, psaume 34, 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Alors, peut-être c'est de là qu'est venue cette idée que si on avait le cœur brisé, Dieu allait venir, donc il fallait demander à Dieu de nous le briser pour qu'il vienne, mais c'est tordu. C'est pas vrai. La raison, c'est que nous avons tous une tendance, même si intellectuellement, parce qu'on connaît la Bible, on sait que c'est pas vrai, à penser que quand on souffre, ça fait plaisir à Dieu. Hein? Ou alors que quand on souffre, ça compense un peu le mal qu'on a fait. Hein? Cette idée qu'il nous faut expier nous-mêmes. Ah, j'ai fait du mal, donc maintenant Dieu me brise, ou la vie me brise, ou l'autre. Hein, voilà. Et puis, du coup, ben, on se dit, ouais, je l'ai mérité, alors je souffre et je me sens mieux, quoi. Et ça, c'est une idée qui est fausse. C'est probablement une des principales idoles dans la vie des chrétiens. Hein. Puisque vous savez, une idole, c'est une fausse conception de Dieu. Et quand, en tant que chrétien, je pense que ça fait plaisir à Dieu si je souffre, j'adore un faux Dieu. Parce que Dieu, ça ne lui fait pas plaisir que je souffre. Attention, Dieu utilise la souffrance dans nos vies, Dieu la permet, hein, il sait en tirer des choses, mais il ne le fait pas parce que ça lui fait plaisir. S'il peut nous l'éviter, d'ailleurs, il nous l'évite, hein, des fois, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, il ne prend pas plaisir à nous voir souffrir parce que, ah ben tiens, comme ça, au moins un peu, hein, ça va leur faire du bien, quoi. Non, jamais. Bien sûr, la souffrance comme le brisement font partie de nos vies, mais c'est pas ce que Dieu veut. Donc, il se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Et puis, il y a ce psaume aussi qui est beau. « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Alors, bien sûr, le psalmiste attribue ici le brisement à Dieu. Mais, voilà, il faut le remettre dans son contexte. Et puis, psaume 147, verset 3. « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » Donc, ce qui est clair, c'est que quand on a été brisé, c'est une opportunité que Dieu va utiliser pour s'approcher de nous. Et puis on va voir pourquoi, enfin, comment c'est possible un petit peu. Mais ce qui est évident par contre dans les Écritures, c'est que Jésus, lui, a été brisé. C'était annoncé dans les prophéties, hein, vers Ésaïe 53, 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pour ça d'ailleurs que c'est entre guillemets grave. C'est pas grave, mais c'est quand même, ouais, c'est grave. De penser que Dieu est content quand nous souffrons. Parce qu'en fait, Dieu a dû briser son propre fils, se briser lui-même, hein, pour que nous soyons pardonnés. Parce que c'était la seule chose qui pouvait satisfaire la justice de Dieu. C'était la seule chose qui pouvait nous rétablir dans une relation avec lui, qui pouvait effacer tous nos péchés, tout le mal commis sur terre, etc., toutes ces choses-là. Et ça a été quelque chose d'horrible, hein. Ce qui s'est passé sur la croix, où la colère de Dieu est tombée sur son fils et donc sur lui-même, pour que nous puissions être réconciliés. Là, c'est le plus grand marteau qui ait jamais frappé, brisé quelque chose dans l'histoire de l'univers. Ça s'est passé là. Mais ça s'est passé une fois pour toutes, pour que nous n'ayons plus à subir cette colère. Et lorsque je pense que ma petite souffrance personnelle m'apporte un petit mérite auprès de Dieu, qu'il est un peu content de ça, que ça lui fait plaisir, bien sûr, on ne le fait pas dans cette intention-là, hein. Mais c'est quand même comme si on disait à Dieu, tu vois, t'as pas frappé assez fort sur Jésus, je vais en prendre un peu moi aussi, hein. Je vais compléter ce que tu as fait. Et ça réjouit pas Dieu. Alors il nous en veut pas non plus parce qu'il sait que c'est humain cette façon de penser, hein, de penser qu'il nous faut expier. C'est pas pour rien que toutes les religions du monde, quelles qu'elles soient, religion avec ou sans Dieu, sont basées sur ce principe. Il faut souffrir, il faut payer, il faut expier pour satisfaire la justice divine. Et c'est en ça que le mot évangile, hein, bonne nouvelle, c'est que la colère est tombée sur Christ et pas sur nous. C'est pas la bonne nouvelle qu'elle est tombée sur Christ, mais la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'elle tombe pas sur nous, parce qu'elle est tombée sur lui. Et puis c'est vrai qu'on est tellement devenu familier avec ce vocabulaire, évangile, bonne nouvelle, patati patata, ça a été un peu mis à toutes les sauces. Et on ne réalise pas ce qui s'est passé, on ne réalisera jamais assez, hein, ce qui s'est passé à ce moment précis, quand Dieu a déversé toute sa colère contre l'injustice, contre le mal, contre tout le péché, contre toutes les horreurs commises sur terre, sur Christ. Mais ce qui est extraordinaire, c'était que le but de ça, c'est que nous puissions être rétablis dans la présence de Dieu. Et nous avons besoin de le réaliser. Dans le chant sur lequel Pascal a un petit peu insisté, « Prends-moi dans tes bras », il y a cette belle phrase qui dit aussi « Je veux savoir que tu es près de moi ». Il est près de nous. Ça, c'est oui, Dieu est omniprésent. Mais « Je veux savoir que tu es près de moi ». Et c'est de ça qu'on a besoin quand on est brisé, quand c'est difficile, quand quelle que soit la cause. Je veux réaliser réellement, concrètement, que tu es près de moi. Parce que oui, c'est écrit dans la Bible, oui, je le sais, oui, les autres le disent, mais moi, je veux savoir que tu es près de moi. Et c'est une prière que Dieu aime exaucer. Alors dans ce sens-là, oui, Dieu utilise le brisement parce que honnêtement, quand tout va très très bien, ce qui arrive à peu près jamais sur Terre, mais quand tout va pas si mal que ça, on va dire, hein, qu'on est assez satisfait de nos vies, c'est relativement rare, je ne dis pas que ça n'arrive pas, hein, mais qu'on supplie Dieu en disant « Je veux savoir que tu es près de moi, prends-moi dans tes bras. Hein. » Donc, dans ce sens-là, oui, les choses qui nous brisent et qui sont souvent les conséquences du péché, pas spécialement le nôtre, de nos parents, des voisins, c'est pas important de savoir d'où ça vient, mais ce monde est méchant, il gît dans la main du malin. Et donc, il produit énormément de brisements. Il écrase tout. Parce que ben, ce n'est pas un secret. Voilà, le but du diable, c'est d'égorger, voler, détruire, piller, écraser, humilier. Essayer de réduire en poussière tout ce qui rappelle l'image de Dieu dans ce monde. Et l'image de Dieu, il est partout. Hein. C'est pour ça que la pollution est là pour s'attaquer à la nature. Parce que dans la création, il y a l'image de Dieu, il y a des énormes vagues sur les familles, sur les couples, sur tout ça, parce que c'est l'image de Dieu, sur les êtres humains en général, parce que c'est l'image de Dieu. Et je dirais même quand il y a de la maltraitance organisée des animaux, je ne suis pas Brigitte Bardot, mais c'est vous avez remarqué d'ailleurs, mais c'est presque la même chevelure. C'est aussi quelque chose qui va contre Dieu, à tous les niveaux, je veux dire, de la création. Hein. Dans l'Épître aux Romains, il est dit que la création tout entière soupire en attendant la délivrance, parce qu'on est sous le rouleau compresseur de la méchanceté, du mal, du péché, qui brise tout. Hein. Et puis aussi, quand les disciples demandent à Jésus, parce qu'ils venaient d'écouter, Jésus marchait avec ses disciples, ils écoutaient France Info sur leur Natel. Et puis là, ils apprennent qu'il y a une tour qui s'est effondrée, puis qu'il y a des gens qui sont morts dessous. Hein. Et quelle est la première remarque des disciples? Est-ce que c'était à cause de leur péché que c'est tombé sur eux? On est toujours comme ça. Hein. Et Jésus leur dit non, ça n'a rien à voir. C'est à cause du mal qui est dans le monde. Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il donne l'oxygène aux bons et aux méchants. Et puis les tours s'écroulent sur les bons et sur les méchants. Et d'ailleurs, souvent, on a un peu l'impression... Hein, revenez au psaume d'Azaph, que les méchants ont un peu plus d'oxygène que les autres, que leur tour s'écroule un peu moins que les autres, que les hôpitaux les soignent mieux que les autres, etc., etc. Alors que les justes, à part des malheurs en plus, ils n'ont pas grand-chose. Quoi. Jusqu'au jour où hein, tu nous prends par la main et puis tu nous montres. Mais au centre de ça, en fait, il y a cette idée que Christ a été brisé. Et puis quand même, j'ai noté, c'est pas essentiel dans le sujet, mais Dieu a quand même pris soin que les os de Jésus ne soient pas brisés. Normalement, un crucifié, il finissait avec au moins les jambes brisées. Bon, ce qui était une mesure de pitié. Ça paraît bizarre, hein, mais vu que la mort sur la croix était une mort par agonie qui pouvait durer jusqu'à 2-3 jours pour les plus résistants, hein, puisqu'on mourait étouffé, il fallait tirer sur les bras et les jambes pour respirer, mais quand on le faisait, ça déchirait tout. Enfin, c'est un sommet d'horreur. Mais quand on brisait les jambes d'un crucifié, il ne pouvait plus pousser pour respirer, et donc il mourait étouffé au bout d'une heure ou deux. Ce n'était pas rapide, hein, mais... Et Jésus n'a pas eu les jambes brisées parce qu'il est mort avant. Hein, le cœur a lâché. Et puis, c'était une prophétie qui était dans l'Ancien Testament. Hein, ses os ne seront pas brisés. Et elle a été accomplie. Alors, je ne sais pas de donner une explication spirituelle à cette chose-là, mais c'était une prophétie qui montre aussi que Dieu prenait soin de ça. Mais par contre, ce qui est important, c'est de voir que dans le ministère de Jésus, qui était annoncé dans Ésaïe, hein, il y a ceci qui est dit. Alors, d'abord, c'est dit dans Ésaïe, mais Jésus le reprend en se l'appliquant à lui-même quand il le lit. Ésaïe 42, 3. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle. Il annoncera la justice selon la vérité. Et dans Luc, donc Jésus qui vient de lire ce texte le commente en disant, Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, donc il m'a donné l'onction, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Et dans Matthieu 12, 20, il reprend littéralement « Il ne brisera point le roseau cassé. » Il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Donc c'est important de voir que en fait Christ a pris sur lui tout cela. Et maintenant, oui, il arrive que nous soyons brisés. Et puis peut-être on peut faire une différence, même si le résultat est un petit peu le même. Des fois, comme j'ai dit au début, excusez-moi, je reviens toujours en arrière, pour que quelque chose soit brisé, il faut que ce soit dur. Alors c'est vrai que des fois nous sommes brisés parce que c'est l'orgueil en nous qui va être brisé. Et même si Dieu y prend pas plaisir, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Hein, parce que c'était trop dur, c'était cassant et puis ça nous empêche de grandir. Hein. J'avais déjà partagé sur ce sujet, mais vous savez que vous vous rappelez comment grandissent les crustacés, hein, les écrevisses, tous ces machins-là. Certains n'aiment pas, mais que certains mettent dans leurs assiettes. En fait, quand ils sont tout petits, ils sont tout mous, ils n'ont pas de carapace, donc ils grandissent, puis hop, ça se durcit, ça devient de plus en plus dur, ça devient une carapace, ça les protège. Hein. Mais ils ne peuvent plus grandir parce qu'ils ont une carapace dure, parce que le squelette est à l'extérieur, en fait. Et là, ils vont devoir passer par des mues successives. Donc, d'un coup, la carapace se fend, elle éclate, en fait, elle est brisée. Et pendant un moment, ils vont être souples de nouveau. Et là, ils peuvent grandir, ou grossir, comme on veut, mais prendre du volume, occuper plus de place. Et de nouveau, une carapace se forme autour. Hein. Alors, c'est vrai que ce principe-là se retrouve un petit peu dans nos vies, parce que des difficultés ou des épreuves peuvent venir. On est brisé, on s'approche de Dieu, on est prêt à changer, à être changé par lui, pas à changer par nos bonnes résolutions. Hein. Mais on est prêt à laisser sa vie en nous agir pour pouvoir grandir spirituellement. Et puis, dès qu'on a retrouvé un petit peu de stabilité, on devient dur de nouveau et ça recommence. Donc, on grandit par étapes, souvent un petit peu comme les crustacés. Hein. Même si ça serait mieux qu'on ait un squelette à l'intérieur et qu'on laisse l'extérieur souple pour grandir. Mais ça, c'est le travail de toute la vie. Mais souvent, le brisement est juste le résultat de l'injustice du monde dans lequel on vit, hein, du péché en général. On a une maladie, on n'y est pour rien, il y a une injustice, on est viré au boulot, les voisins sont désagréables, etc. etc. C'est pas directement une conséquence de ce qu'on a fait. Et dans ces moments-là, de toute façon, dans l'autre aussi, mais Dieu est près de nous et il veut utiliser ça pour nous rendre plus sensibles. Alors c'est bien de savoir que dans ces moments-là, on n'est pas en train de payer pour nos péchés. Bien sûr, on assume la conséquence de nos actes. Hein. Si je fume 3 paquets de cigarettes par jour, ça ne gêne absolument pas Dieu. Il n'y a rien d'immoral dans le fait de fumer. Mais c'est comme si vous alliez manger un McDo tous les jours, vous allez en mourir. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une punition de Dieu, c'est une conséquence de nos actes. Hein. Mais par contre... quand je suis brisé, bah, il se tient près de moi et puis il veut utiliser ça pour me réconforter. Et puis, en poussant ma réflexion, je trouve intéressant parce qu'en fait, on retombe sur le sujet qu'on avait annoncé pour cette année, la vie de disciple. Hein. Vous vous rappelez ce verset que je vous ai lu plusieurs fois, Ésaïe 54 ? Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Dans Proverbe 15:4, il est dit « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Donc l'étape d'après, c'est de comprendre que, oui, alors il y a tout le Dieu qui vient me secourir quand je suis brisé dans ma vie. Mais en tant que disciple, je suis appelé aussi à vivre pour les autres. Pour les autres, pas dans la comparaison, mais à donner quelque chose aux autres, parce que c'est un circuit, on reçoit de Dieu, on donne et puis on reçoit comme ça. Et en fait, nos paroles, nos actes, tout ce qu'on est, ont le pouvoir de briser les autres, malheureusement, ou au contraire, de les guérir. Et comment je vais pouvoir donner une parole qui fait du bien ? Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ça peut être difficile d'être à côté de quelqu'un qui est brisé par la vie, quelle que soit la cause. Et puis, même si on a de l'empathie, on est là et on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux dire ? Dans certains cas, on peut faire quelque chose matériellement, mais souvent rien, juste être là. Mais dans ces moments-là, on a besoin justement d'être rempli de Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit, de connaître la consolation pour pouvoir la partager. Paul expliquait, on est dans les souffrances, on est dans les persécutions, on est brisé par toutes sortes de choses, afin que la consolation que nous recevions, nous puissions vous la partager. Il considérait que les souffrances qui lui arrivaient, et donc qui faisaient que Dieu le consolait, étaient positives pour le corps de Christ, parce que du coup, il avait quelque chose à apporter aux autres quand ils étaient dans la souffrance. Et ça, c'est une chose aussi qu'on peut considérer quand nous-mêmes, nous passons par le brisement, et que nous avons... C'est pas un mérite. Si on a, en tout cas, on pense à crier au secours à Dieu. Seigneur, j'y arrive pas, j'en peux plus, c'est trop difficile, j'arriverai pas à faire un pas de plus. Au secours, je veux savoir que tu es près de moi. Et Dieu, c'est pas magique, c'est pas une formule, c'est pas un distributeur où on met un frein avec une prière et puis on reçoit quelque chose. Mais d'une façon ou d'une autre, Dieu va venir, tôt ou tard, rapidement ou pas, mais il vient et il nous console et il nous prend dans ses bras. Et ça va laisser quelque chose dans nos vies qui fait que lorsqu'on croise quelqu'un d'autre qui lui-même est brisé par la vie, quelle que soit l'origine, même si on ne dit pas grand-chose, on aura quelque chose à communiquer. Parce que l'Éternel a éveillé mon oreille et m'a donné la langue des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est épuisé. Et c'est comme ça que on est dans un cycle de vie. Rappelez-vous, tout ce que Dieu fait est vivant. On le voit dans la nature, on le voit dans le corps humain, on le voit dans tout, dans l'univers, etc. Tout est vivant. Et dans la vie, il y a toujours des cycles de vie. On fait des enfants, ils grandissent, et puis nous on meurt, mais eux ils ont des enfants, ils vivent, etc. Les plantes, l'eau qui revient, et la Bible donne souvent ces exemples. Mais là, c'est la même chose. Christ a été brisé pour que nous ayons une consolation, pour que nous ne vivions pas ce qu'il a vécu. Parce que lui, quand il a été sur la croix, il y a eu un moment où il était seul. Vous connaissez cette expression, quand quelqu'un passe un moment là, d'un coup délicat, on dit « ouf, un grand moment de solitude hein ». Voilà. Le vrai grand moment de solitude absolue, totale, cosmique, c'est Christ qui l'a vécu sur la croix. Tout était détourné de lui et le Père a détourné ses regards parce qu'il portait nos péchés. Et là on ne peut même pas imaginer ce que c'est cette solitude-là. S'il m'arrive de me sentir seul, pourtant j'ai du monde autour de moi, mais s'il m'arrive de me sentir seul, c'est quelque chose qui me réconforte parce que je me dis, c'est rien. Et puis surtout, Christ, la solitude absolue, il l'a connue pour que moi je la connaisse jamais. Parce qu'on peut tout nous enlever, mais on ne peut pas nous enlever Christ, où qu'on soit, quoi qu'il se passe. Et donc, on est au moins deux, lui et moi, puis eux ils sont trois, donc ça fait déjà quatre. Donc, déjà c'est... Renaud disait, je suis une bande de jeunes à moi tout seul. Nous, on peut dire, je suis déjà un bon groupe de... Hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et moi, pour peu qu'il y ait encore un ou deux frères et sœurs, déjà, ça fait du monde. Et cette solitude-là, ben, on ne va pas la partager parce que lui l'a connue. Et puis, donc, on reçoit de lui et on va pouvoir donner à d'autres. Parce qu'on donne, peut-être au bout d'un moment, on est un peu vide, et on va recevoir de lui, et puis on donne. Et puis, ça remonte à Dieu sous quelle forme? Parce que la pluie, il faut que l'eau, ça fait un cycle. Hein. Action de grâce, reconnaissance. Quelque part, quelqu'un est secouru et dit, merci Seigneur. Waouh, j'étais seul, je ne suis plus seul. Ça faisait mal, ça fait moins mal. J'étais en 1000 morceaux, et maintenant, ouais, ça ne ressemble plus à grand-chose, mais les morceaux sont recollés ensemble. Merci mon Dieu. Ça revient à lui, et puis il redonne, et puis ça fait un cycle de vie comme ça. Alors, briser le brisement, ouais. Dieu brise l'orgueil, brise ce qu'il a envie de briser, mais son but en tout cas, ce n'est pas de nous briser, on n'a pas à demander à Dieu qu'il fasse, et quand ça vient, il est près de nous, et puis il ne nous achève pas. Elle est belle cette image, hein. Il ne brisera point le roseau cassé. Hein. Et ça tient par quelques petits filaments encore. Puis on dirait, c'est foutu, quoi. Hein. Paf, non. Il remet en place, il met des attelles, il attache autour. Et hop. Alors après, ça ressemble plus vraiment à un roseau, quoi. Il y a des trucs autour, c'est un peu tordu, c'est un peu bizarre. Mais il n'a pas cassé, il répare toujours. Hein. Dieu n'est pas du tout dans la consommation. Allez hop, on jette, on achète un autre. Il répare toujours, 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 toujours. C'est ce qui est magnifique. Alors Seigneur, merci parce que quand nous sommes touchés par le brisement, d'abord nous pouvons nous rappeler que toi tu l'as été réellement à cause de nos péchés, à cause des péchés du monde entier, mais surtout que tu viens auprès de nous pour soigner, pour penser, pour adoucir, pour réconforter, pour réparer. Et nous voulons recevoir ta consolation. Et puis nous voulons être capables de la partager, de la donner plus loin, de nous aussi être tes mains, être ta bouche, par une parole, par un geste, par un acte, par une prière, pouvoir partager cette consolation, cet encouragement. Merci pour cette bonne nouvelle. Tu as été frappé à notre place et nous ne serons plus jugés, condamnés, rejetés. Nous pouvons vivre près de toi. Alors, nous voulons encore une fois de tout notre cœur te dire ce que nous t'avons chanté. Nous voulons savoir que tu es près de nous, que tu nous tiens dans tes bras, que tu es celui qui nous accompagnera dans les moments difficiles et que nous puissions aussi choisir de cheminer avec toi même quand les choses vont mieux, Seigneur. Merci pour ce moment, merci pour ta présence et merci pour la consolation qui est en toi. Amen.